Est-ce que la RDC et le Rwanda vont vers une guerre ouverte? Le Rwanda exercera des représailles s'il subit de nouvelles attaques de la République démocratique du Congo, a déclaré mardi son ministre des Affaires étrangères après avoir accusé le Congo d'avoir tiré des obus à travers la frontière au début du mois. Le Congo a convoqué l'ambassadeur du Rwanda et a suspendu les vols de Rwanda Air vers le Congo au cours du week-end en réponse à ce qu'il a qualifié de soutien de Kigali aux rebelles du M23 menant une offensive militaire dans ces régions frontalières orientales. Le Rwanda a nié ces allégations et a à son tour accusé l'armée congolaise de combattre aux côtés des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe armé fondé par des Hutus de souche qui ont fui le Rwanda après avoir participé au génocide de 1994. Si les attaques continuent, nous ne resterons pas les bras croisés. Le Rwanda aura le droit de réagir pour protéger la sécurité du pays, pour protéger la sécurité de ses citoyens, et nous avons les moyens de le faire, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. D'un autre côté, le VSV donc dénonce la complicité d'une partie de la communauté internationale qui soutient Paul Kagame sans lui reprocher des violations graves des droits humains perpétrées en RDC. Le contexte sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, marqué par des violations et atteintes graves aux droits humains auxquels font face les populations de l'est suite aux attaques injustes du M23 soutenues par le Rwanda et a donc été abordé par la voix des sans-voix pour les droits de l'homme à l'occasion du 12e anniversaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Le VSV donc félicite et soutient les forces armées de la République démocratique du Congo pour leur exploit et détermination à protéger à tout prix le territoire congolais et à défendre la population longtemps meurtrie. La VSV dit « Allez de l'avant les FARC, donc toute la population congolaise est derrière vous ». La VSV salue le gouvernement congolais pour sa position courageuse, salutaire et ferme face au soutien du Rwanda au M23. Du vivant de Floribert Chebeya, la VSV donc avait toujours dénoncé le comportement et agissement des autorités rwandaises, se cachant toujours derrière la présence des FDLR pour attaquer la RDC ou soutenir des rébellions pour la déstabiliser, alors que la paix est l'un des droits fondamentaux de l'homme pour non seulement les Rwandais, mais également les Congolais, a déclaré le directeur exécutif de la VSV mercredi 1er juin. Pour la VSV, l'opinion publique pense que le Rwanda se complaît donc de la présence des FDLR en RDC pour en tirer profit coûte que coûte, comme le prouve son soutien pour des raisons économiques au M23. D'ailleurs, les FDLR, selon certains experts, donc ne représentent plus grand-chose en termes d'effectifs pour inquiéter le Rwanda. La VSV souhaite la paix entre la RDC et le Rwanda et non le conflit qui risquerait donc de toucher gravement les populations congolaises et rwandaises. Et pour cela, la partie de la communauté internationale qui soutient le président Paul Kagame et son gouvernement, sans lui reprocher les violations graves des droits humains perpétrées en RDC avec des millions de morts et des milliers de victimes, est complice de souffrances des Congolais et Congolaises, est contre la paix. Et il est donc temps que cela cesse, en appelant le président rwandais d'arrêter tout soutien au M23, recommande la VSV. Et d'ajouter que la VSV condamne et dénonce fermement le soutien du Rwanda au M23 et soutient la mobilisation des Congolaises et Congolais pour la paix. La VSV exige du gouvernement congolais des moyens conséquents pour les FARC et les autres services de sécurité, et cela doit passer impérativement, entre autres, par la réduction du train de vie des animateurs, des institutions pour leur permettre de mieux défendre et protéger le territoire congolais contre toute agression. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les FARC et les M23 dans la partie est de la RDC et une réunion du Conseil supérieur de la défense s'est tenue à Kinshasa le 27 mai dernier sous la direction de Félix Tshisekedi. Plusieurs options ont été levées, parmi lesquelles la confirmation du soutien du Rwanda au M23, la convocation de l'ambassadeur rwandais accrédité en RDC, la suspension des vols de la compagnie Rwandair ou encore la considération dorénavant du M23 comme un mouvement terroriste. son exclusion donc du processus des discussions de Nairobi. À l'heure actuelle, les organisations continentales et la communauté internationale appellent à un dialogue entre la RDC et le Rwanda pour tenter de désamorcer la bombe. D'après les autorités angolaises, après les échanges entre Félix Tshisekedi et João, donc Lorenzo, le président de la RDC avait accepté de libérer deux militaires rwandais arrêtés dans la partie de la RDC. De son côté, Washington s'en mêle. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé mercredi à une solution diplomatique pour régler les tensions croissantes entre la RDC et le Rwanda, alors qu'il accueillait à Washington Christophe Lutundula, le ministre congolais des Affaires étrangères. Il a notamment salué les discussions qui se sont tenues en avril entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles à Nairobi, au Kenya. « Je suis également très impatient de discuter de la manière dont nous pouvons soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC qui est confrontée à certains défis. Mais nous voulons soutenir les efforts africains importants qui sont en cours afin de faire face à ces défis. Et je dirais en particulier que nous applaudissons les efforts diplomatiques que nous voyons en cours pour l'initiative de Nairobi et la poursuite d'une paix durable dans la région, ce que les États-Unis soutiennent beaucoup », souligne Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. La querelle diplomatique entre Kigali et Kinshasa s'est intensifiée ces derniers jours et plusieurs ont appelé à la rupture des relations entre les deux voisins. En début de semaine, la RDC, qui accuse le Rwanda de déstabiliser la partie est de son pays, a libéré deux soldats rwandais à la demande du médiateur de la crise, João Lorenzo, une mesure censée réduire la tension entre les deux pays. Les États-Unis s'en mêlent comme si c'était eux qui seraient derrière ces tensions. Le fameux dialogue que salue Washington avec les groupes rebelles à Nairobi donc est en fait une manière de légitimer l'existence de ces groupes rebelles visiblement soutenus par Washington. Les États-Unis se sont sentis en danger lorsque la RDC a œuvré pour mettre en place une alliance régionale pour mettre fin à la présence des rebelles terroristes qui déstabilisent l'est de la RDC. Ce fut également le cas donc du Rwanda qui s'est senti en danger et isolé. La situation se dégrade littéralement, surtout depuis que les alliances régionales donc se sont formées entre la RDC et plusieurs pays voisins, notamment l'Ouganda ou encore le Burundi, pour mettre fin à l'insécurité incessante que vit la population congolaise dans l'est de la RDC. Cette situation dure depuis des décennies maintenant et il est clair que le ras-le-bol de la population congolaise se fait également ressentir. L'aide militaire occidentale n'a fait qu'empirer la situation comme partout à travers le monde. La présence passive de la MONUSCO, les pseudo-aides des États-Unis ou encore de la France n'ont fait qu'empirer la situation et ça, les Congolais sont conscients qu'ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes s'ils veulent que la sécurité revienne dans la région de l'Est. De nombreuses manifestations ont régulièrement lieu demandant le départ de la MONUSCO. Vu la passivité de cette instance internationale face à l'insécurité, les Congolais s'interrogent encore sur les vraies raisons de la présence de celle-ci sur le territoire congolais. Tout le monde a bien compris que les seuls qui peuvent réellement ramener donc la sécurité dans l'est de la RDC, c'est bien les Congolais eux-mêmes et personne d'autre. Sénégal-Russie, la nouvelle alliance. Le président russe Vladimir Poutine a entamé des négociations avec son homologue sénégalais, le président de l'Union africaine, Macky Sall. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, participe également à la réunion qui a lieu donc ce vendredi à Sotchi. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a noté que l'ordre du jour de la conversation était très très importante et détaillée. Selon lui, certaines questions internationales seront abordées, donc dont la profonde préoccupation du continent africain face à la crise alimentaire mondiale imminente, le manque d'engrais et la coopération économique. Les relations russo-africaines seront également abordées, comme l'a rapporté le service de presse du Kremlin. Les pourparlers porteront sur les questions d'interaction entre la Fédération de Russie et l'Union africaine, y compris l'élargissement du dialogue politique et de la coopération économique et sociale avec les pays du continent. Les présidents devraient aussi discuter donc du développement de la coopération russo-sénégalaise. Le Sénégal place de grands espoirs dans la coopération entre les pays africains et la Russie. C'est ce qu'ont déclaré vendredi le président du Sénégal et le président de l'Union africaine, Macky Sall, lors de son entretien avec le président russe Vladimir Poutine. Je salue le rôle joué par la Russie dans la lutte pour les indépendances des pays africains. Ce rôle ne peut donc être oublié par l'Afrique et cette amitié au nom de laquelle je viens pour les 54 pays de l'Union africaine fait que vraiment nous avons beaucoup d'espoir et nous souhaitons bien sûr donc non seulement renforcer les relations de coopération bilatérale entre la Russie et l'Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences sur nos États, sur nos pays, a déclaré Macky Sall au début de son entretien avec son homologue russe. Le président sénégalais a noté que malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains a évité de condamner la Russie dans cette situation. Un certain nombre de pays d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient ont une position similaire sur la situation actuelle, d'après lui. Selon des médias sénégalais, Macky Sall s'est rendu en Russie pour faire sortir toute la planète de l'impasse où elle s'était retrouvée à cause de la crise en Ukraine, a affirmé pour sa part, le journal sénégalais L'As. Le voyage du président sénégalais en Russie s'inscrit dans le cadre des efforts menés par l'Union africaine afin d'obtenir la désescalade en Ukraine et stabiliser les marchés mondiaux des céréales et des engrais. Le président sénégalais et président de l'Union africaine trouvent nécessaire de lever les sanctions contre la Russie en matière de livraison internationale de céréales et d'engrais. Les sanctions aussi contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès aux céréales provenant de Russie. Un problème particulier, mais surtout aux engrais. Et ça a créé donc vraiment de sérieuses menaces pour la sécurité alimentaire du continent, a-t-il souligné. Macky Sall a indiqué que son pays prônait l'exemption des céréales et des engrais des sanctions contre la Russie. Et selon le service de presse du Kremlin, la décision de la visite de Macky Sall en Russie a été prise lors de la réunion du 10 mai du bureau élargi de l'Union africaine. Et selon l'agence de presse sénégalaise, son voyage s'inscrit dans les efforts du président de l'Union africaine visant à régler le conflit en Ukraine ainsi qu'à débloquer la situation des céréales et des engrais, donc qui affectent négativement les pays africains. Le rôle de l'Afrique grandit sur la scène internationale et la Russie développera ses relations avec les pays du continent africain, a déclaré donc vendredi le président russe Vladimir Poutine en accueillant dans sa résidence de Sotchi le président sénégalais et le président donc de l'Union africaine ainsi que le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Le rôle politique de l'Afrique grandit sur la scène internationale. Nous sommes persuadés que l'Afrique en général, aussi bien que les États qui la constituent et avec qui nous entretenons traditionnellement des relations très bienveillantes et réellement amicales, ont de grandes perspectives devant eux. Et c'est en partant de ce fait que nous comptons développer nos relations avec l'Afrique en général et avec ses États en particulier, a déclaré le chef de l'État russe. Nous nous trouvons à une nouvelle étape de notre développement et nous accordons une grande importance à nos relations avec les pays africains, a déclaré Poutine. Selon les informations, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ont augmenté de 34% au cours des 6 derniers mois et le chef de l'État russe a également souligné que la Russie comptait développer des liens culturels et humanitaires avec l'Afrique. Et nous ferons tout afin que ce développement s'intensifie, a-t-il ajouté en précisant que la Russie montrait toujours un grand intérêt envers la culture africaine. Vladimir Poutine a précisé que la Russie célébrait traditionnellement tous les événements importants pour le continent africain, notamment la Journée de l'Afrique et le 60e anniversaire de l'instauration des relations diplomatiques avec le Sénégal. Dans les semaines qui viennent, vous allez célébrer la création de l'Union africaine et à l'occasion de cet événement, je voudrais rappeler que notre pays a toujours été aux côtés de l'Afrique et l'a toujours soutenu dans sa lutte contre le colonialisme. Le président russe a rappelé également qu'en 2019, la Russie avait accueilli le sommet Russie-Afrique. De nouveaux liens sont en train de se tisser entre l'Afrique et la Russie et malgré les nombreuses pression de la communauté occidentale pour briser ce lien. Les pays comme la Russie, l'Iran ou encore la Chine sont de plus en plus présents, mettant en déroute les nombreux plans de colonisation de l'Afrique des Occidentaux, mais réduisant également leur présence. Et cette coopération ne fait que s'agrandir.
Samedi, le Rwanda a affirmé que deux de ses soldats étaient retenus en captivité après leur enlèvement par des rebelles en RDC. De son côté, Kinshasa accuse son voisin d'attaque sur son sol. Le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a exprimé dimanche sa grave préoccupation et appelle les deux pays au calme et au dialogue. Plus d'explications avec Luc Michel, géopoliticien.
Le coltan donc est produit, exporté en quantité 5 fois plus importante au Rwanda qu'au Congo, alors qu'il n'y a aucune mine. Cela se plaint dans tout le domaine des mines, des terres rares, etc. Le président Macky Sall intervient parce qu'il y a des risques de guerre entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda a déjà fait la guerre sur le territoire de la RDC lors de la première guerre du Congo en 1996, qui a mis un terme au régime de Mobutu, et ensuite lors de la seconde guerre de 1998, qu'on appelle la guerre mondiale du Congo, qui a vu 10 de ses voisins et 10 organisations politico-militaires intervenir dans la guerre. Macky Sall donc est extrêmement inquiet, l'Angola également, d'autant plus que l'Angola avait dû intervenir dans la guerre de 1998 et qu'elle ne souhaite pas que cela recommence. Il devra prochainement donc faire face à ses électeurs et il ne peut plus braquer son opinion publique alors qu'on a des preuves de l'implication du Rwanda, notamment des prisonniers de guerre du mouvement M23 avec des uniformes et des armements d'origine rwandaise. Il faut ajouter qu'il y a un rapport de l'ONU, c'est le rapport MAPIGS, qui détaille les crimes de guerre au Congo depuis plusieurs décennies et qui met en cause le Katanga, le Rwanda. Maintenant, il faut savoir que Macky Sall est très inquiet parce que le Rwanda intervient militairement sur le territoire du Congo depuis plus de 25 ans. Il pille également l'économie et les mines, notamment dans les provinces du Tanganyika, de l'Ituri, du Katanga et du Kasaï. Notamment, il pille le produit des mines, le coltan, qui est un produit stratégique essentiel à l'économie occidentale. On exporte 5 fois plus de coltan du Rwanda. La situation est en train de se dégrader entre la RDC et le Rwanda. Il y a une opposition qui oppose des mouvements rebelles dans les provinces du Kasaï, de l'Ituri, du Katanga. Les mouvements rebelles qui sont le M23, qui est une rébellion politique congolaise, et le Front de libération du Rwanda, qui est une force politico-militaire venue en 1994 lors de la guerre civile rwandaise du Rwanda. Ces deux forces sont soutenues, armées, équipées par le Rwanda, et évidemment Félix Tshisekedi proteste. Jusque-là, Tshisekedi et Kagame, le président rwandais, étaient étroitement alliés. Ce sont tous les deux des agents américains, comme l'est le président du Ghana ou encore le président de Côte d'Ivoire. Mais Félix Tshisekedi est en pré-campagne électorale. Il devra prochainement. Kagame est en fait le président du Rwanda. Il a été installé au pouvoir en 1994 grâce aux Britanniques et aux Américains. Et depuis, il est la porte d'entrée des Anglo-Saxons et singulièrement des Américains dans la région des Grands Lacs. C'est aussi le diable qui endeuille les populations de deux pays voisins, la RDC et le Burundi. Dans le fameux rapport Mappings que le Rwanda a essayé d'étouffer, on établit clairement les responsabilités de Kagame. Ajoutons qu'après de nombreuses années de brouille avec Paris, Kagame a fait des accords de diplomatie secrète avec Paris et qui sert dans la région des Grands Lacs d'appui à la diplomatie française.
Le Kenya a célébré le 1er juin le 59e anniversaire de son indépendance, baptisée le Madaraka Day. Cette journée marque la fin de la domination britannique en 1963. À cette occasion, le président Uhuru Kenyatta a donné un discours de plus de 2 heures sans interruption devant des milliers de Kenyans, rassemblés pour assister au programme de la fête nationale. Le jour de Madaraka est important dans notre histoire, car c'est en ce jour de juin 1963 que les pères fondateurs de notre nation ont remplacé le gouvernement colonial sortant et formé le premier gouvernement indigène du Kenya, a déclaré Uhuru Kenyatta président du Kenya. Si le protocole de la fête nationale prévoit habituellement un temps de parole pour le vice-président, le silence de William Ruto cette année a été remarqué et contesté par une partie des Kenyans. C'est la dernière fois que Uhuru Kenyatta s'exprimait en tant que président lors de la fête nationale kenyane. Il a accordé son soutien au prochain scrutin à son ancien rival, Raila Odinga. La commission chargée de préparer le dialogue national a suspendu mercredi ses travaux jusqu'à nouvel ordre après des difficultés rencontrées lors de ses réunions avec le retrait de certaines composantes politiques de l'opposition participant aux travaux. Cette suspension est intervenue alors que la commission avait fixé à cette semaine le début de ses travaux et la journée du mercredi pour constituer la commission chargée de mettre la dernière main aux préparatifs avant le lancement de la concertation. Lors d'un point de presse, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Yahya Ahmed El-Wakef, qui préside cette commission, avait annoncé la suspension des travaux en attendant que la situation soit propice. Le président de la commission est revenu en détail lors de sa conférence de presse sur le processus de cette concertation avant d'annoncer la suspension des travaux de la commission et l'arrêt d'un processus qui a duré plus d'un an. Le président sénégalais a donné mardi le top départ des travaux de la première usine de dessalement d'eau de mer du pays. L'ouvrage estimé à hauteur de 137 milliards de francs CFA marque une nouvelle étape dans la réalisation du plan Sénégal émergente, a affirmé Macky Sall. Il devrait permettre de diversifier l'approvisionnement en eau de Dakar, la capitale sénégalaise victime de sa croissance démographique et du développement de son tissu industriel. Elle est d'autant plus vitale, cette usine, que la situation démographique combinée à une forte poussée immobilière, un développement fulgurant des activités économiques, ont engendré une surexploitation des ressources hydriques locales, accélérant ainsi la remontée des buses salées dans la presqu'île du Cap-Vert, a déclaré le président sénégalais. Mais cette usine ne fait pas l'unanimité. Depuis 2016, des voix s'élèvent contre ses conséquences éventuelles sur l'environnement. Macky Sall tente de rassurer. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, a procédé à la pose de la première pierre de l'usine de cimenterie Atlas ce jeudi 2 juin à Dlogaré, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Bamako. Le coût total d'investissement s'élève à près de 50 milliards de francs CFA et la durée de réalisation de ce projet est de 3 ans. Prévu sur une superficie de 14 hectares, cette infrastructure économique, issue de la volonté de deux jeunes entrepreneurs maliens, devra contribuer à produire 800 000 tonnes de ciment par an et jouer sa parution dans la lutte contre le chômage dans le pays. La nouvelle usine permettra également de réduire considérablement les importations de ciment et de hisser le Mali à la tête des pays les plus industrialisés en Afrique de l'Ouest, a soutenu Papa Oumar Samaké, président directeur général de la société Atlas.